Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la lecture de la 7e partie de mon adaptation du roman de Jérôme Aumont, Un empêchement, paru en 2023, édité chez Christian Bourgois Éditeur. Il s'agit d'un roman choral et après les monologues de Mathieu puis Xavier, voici des extraits de celui de Marie. Un peu trop absorbée par le piège que je pense tendre à Thierry C, je m'aveugle comme une idiote. Je refuse de voir que je ne vais pas sortir indemne de ce dîner. Deux êtres se reconnaissent, un troisième en fait les frais. En voulant décourager mon amant, j'invite Mathieu à rencontrer l'homme que la vie lui a volé. À table, j'observe Mathieu. Il est prolixe, gai, drôle. Il est de toutes les conversations, comme soudain porté par une étrange allégresse. Le champagne me donne la migraine. J'ai envie de rentrer. Moi qui espérais que Mathieu me pousserait rapidement vers le vestiaire, puis vers la sortie, soupirant un « là » que c'était long, je vois les rôles s'inverser. Je tente d'attirer l'attention de mon mari pour l'exhorter à fuir les lieux. Il se délecte d'un vol au vent traiteur et se laisse servir une nouvelle rasade de Chablis Grand Cru. Il ne manque que les œillades de Thierry C pour faire de ce tableau une croûte intégrale. Alors, saisissant au vol la remarque de ma voisine de table, « Tu es pâle, tu te sens bien, tu es sûr ?» J'en profite pour relayer l'information à l'ensemble de la tablée. Galant homme, Mathieu propose de prendre congé et salue avec élégance ceux qui ont fait du supplice attendu une soirée finalement très agréable. Pour lui, tout du moins. Je l'ignore encore, mais à partir de cet instant précis, je vais lentement, mais sûrement, perdre Mathieu. Et comprendre que, loin d'être un simple bouclier contre les importuns ou la solitude, il était bel et bien l'homme de ma vie, ma force, mon assurance même. Je nourris une défiance de fond vis-à-vis des réseaux sociaux, sans doute parce qu'ils incarnent cette immédiateté qui enterre chaque jour davantage tout ce pourquoi je me suis toujours battue. Le recul nécessaire que tout journaliste se doit d'observer à l'égard d'une information avant de la relayer, la vérifier, la contextualiser, l'analyser, pour enfin la traiter avec objectivité. C'est une stagiaire coiffée de la double casquette brand content et social media qui m'a donné les clés d'un profil Instagram déjà suivi par près de 700 000 personnes avant même que je n'aie publié la moindre image. Logique, c'est le compte du journal. Comble de l'ironie, à mesure que les ventes en kiosque s'effondrent aussi sûrement que les falaises d'Étretat, chaque photo que je poste recueille un minimum de 10 à 12 000 likes. Davantage que le nombre d'abonnés qui continuent à me faire un chèque de 39,90 € en échange de 12 numéros par an, une serviette de plage monogrammée et une bougie parfumée fragrance lait de figue sélectionnée par le service marketing, lequel choisit aussi quelle image je dois poster, à quelle heure, la nimbant d'une cohorte de hashtags incompréhensibles. Ma dernière liberté de journaliste s'exerce dans les images que je choisis de liker avec une méthode éprouvée, alternant jeunes créateurs, artistes émergents et galeristes installés. Lorsque la photo est apparue sur l'écran de mon téléphone portable, j'ai d'abord esquissé un sourire. Mathieu partage ma réserve naturelle vis-à-vis des réseaux sociaux. Cette manière dont on y jette désormais en pâture tout ce que l'on avait jalousement gardé pour soi jusqu'alors. Il y apparaissait malgré lui sur le selfie de Nancy W., une jeune styliste anglaise de passage à Paris, qui dînait avec des amis dans un restaurant japonais de la rue Sainte-Anne. J'aime l'univers de cette fille, dont les coupes sont toujours justes, honnêtes. Sa manière d'associer une palette franche à de discrets motifs qu'elle pioche dans un alphabet qu'elle a elle-même mis au point. J'en étais presque à écrire une brève sur cette Nancy W. Je détaillais l'arrondi du col de son chemisier quand, zoomant sur ses boucles d'oreilles, là, à droite de sa chevelure négligée, je reconnus le visage de mon mari. Mathieu y arborait son plus beau sourire. La netteté de l'image en était troublante, accablante. Sans le savoir, mon mari dînait à côté de la future papesse de la mode. Et par le truchement de l'écran de mon téléphone portable, je contemplais cette image volée, une parmi tant d'autres. J'aurais presque pu en rester là, dézoomée d'un geste conjoint du pouce et de l'index, passer à l'image suivante à l'aide de mon majeur, reprendre ma place dans le flux étourdissant. Je me voyais déjà accueillant Mathieu quelques instants plus tard d'une ironique « Heureusement que tu ne dînais pas avec ta maîtresse, figure-toi que tu apparais sur… » Mais ce type-là, en face de Mathieu, ce type qui le dévore littéralement des yeux, c'est Xavier N. Que fait mon Mathieu avec Xavier N. Et à peine la question résonnait-elle dans ma tête, à peine l'avais-je formulée que je sentis mon corps tout entier se tendre. Pourquoi avait-il prétendu dîner avec un partenaire financier si c'était pour finir dans un restaurant japonais avec un pigiste croisé quelques semaines plus tôt dans un cocktail presse? Pourquoi ce mensonge? Et là, sans préavis, le flux d'images, le flot de mensonges, la femme flouée, je zoome à nouveau. Je n'en crois pas mes yeux. J'hésite à appeler Mathieu. Il y a forcément une explication. Son dîner professionnel a été annulé au dernier moment. Mathieu a croisé Xavier par hasard. Il n'a pas eu le temps de me prévenir. Il le fera en rentrant tout à l'heure. Tu ne devineras jamais avec qui j'ai dîné. Tu sais, Xavier N., nous nous sommes rencontrés alors que je sortais de rendez-vous. Mon dîner venait d'être annulé, on a bu un verre, deux verres, puis on a dîné ensemble. Très sympa. Je le soupçonne de crever d'envie de bosser pour toi, mais j'ai passé une très bonne soirée quand même. Tiens, il m'a laissé sa carte. Si tu cherches une plume. Tu savais qu'il était le dernier journaliste à avoir interviewé Pierre Paulin? On devrait l'inviter à dîner à l'occasion. C'est vraiment un garçon formidable. Voilà. Voilà exactement la manière dont les choses se passeraient. Je surenchérirais si, justement, je sais avec qui tu as dîné et tout le monde de la mode est aussi au courant. C'est amusant et terrifiant. Les réseaux sociaux dans toute leur splendeur. S'ensuivrait une conversation sur le droit à l'image, la gastronomie japonaise et l'avenir prometteur de Nancy W. Puis on se coucherait, on feuilletterait qui un magazine économique, qui une nouvelle de Joyce Carol Oates. On s'embrasserait, peut-être un peu trop du bout des lèvres. Oui, le désir se dissout dans les noces de plomb, de porcelaine ou d'opale. Mais on est là l'un pour l'autre. On a construit une histoire, un semblant d'équilibre. On est lié par une forme de contrat. Et quand bien même on sait avoir franchi un cap à partir duquel c'est le sommeil qui vous offre la plus langoureuse des étreintes, cet abandon-là parvient à vous convaincre qu'il est le plus précieux de tous. Peut-être qu'une faille invisible, à peine perceptible, vient de s'inviter. Peut-être qu'elle ne demande d'ores et déjà qu'à s'épanouir. Cette nuit-là, quand Mathieu me rejoindra dans notre lit, autorisant une considérable distance de sécurité, rien ne se dira sinon le silence. Un silence conforté par le sillage inhabituel de Mathieu, qui, bien davantage que le froissement du drap, m'extraira de mon sommeil. Comme si un autre homme venait de prendre place à mes côtés. Mathieu émet un soupir dont nous cernons tous les deux la signification. Moi dans un demi-sommeil qui refuse le conflit, lui dans une conscience exacerbée, pâteuse et déjà lourde. ce subtil cocktail à base de culpabilité, d'excitation, d'envie et de renoncement. Quelques heures plus tard, Mathieu est déjà sous la douche, déterminé à fuir l'appartement et tout affrontement. Persuadé que les explications s'en remettent d'elles-mêmes au calendrier grec et que ce sentiment de culpabilité va se dissoudre dès qu'il aura franchi le seuil de la porte. Mais j'ai déjà émergé de ce sommeil sans rêve et depuis le lit je guette chaque bruit, chaque odeur rythmant le petit déjeuner de mon mari. L'ouverture d'un placard, le parfum d'un toast qui se pare de reflets charbonneux entre les résistances. L'infâme bruit de gorge de la machine à expresso que compensent les 12 volutes qui s'en échappent. Je m'extrais des draps, retape mon oreiller pour me donner du courage, me faufile dans la cuisine avant qu'il n'ait eu le temps de la fuir. Je l'embrasse malgré tout, l'étreins presque. « Tu es rentré tard, non ? J'en déduis que ta soirée s'est bien passée. » « Oui, ça s'est un peu éternisé. Désolée si je t'ai réveillée, j'ai un peu trop bu, je crois. » Clairement, tu empestais le rhum. Ne m'en parle pas, j'ai une de ces migraines. J'espère que cela va se calmer avec le café et les 2 cachets que je viens d'avaler. Bon, je file, j'ai une grosse journée. À ce soir ? Non, j'ai un dîner avec un gros annonceur. Je m'en passerai bien. Tu ne devais pas voir Philippe et Guillaume, toi d'ailleurs ? Ah oui, c'est vrai. Je crois que je vais reporter. Pas le courage d'enchaîner. Je vais rester là, sagement. Sagement ? Façon de parler, au calme, si tu préfères. Je préfère, en effet. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan for light of time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain, stay for now. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows
about the way this river flows. I don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go. Oh, how they come and go.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Avant de devenir une femme insatisfaite, je fus d'abord une enfant modèle, puis une étudiante accomplie. J'ignore dans quelle mesure une étape a influencé l'autre. Et je ne suis pas certaine que l'on puisse parler ici de réussite. Cela ressemble davantage à une longue série de sacrifices et de désillusions. Pas mal d'amitiés laissées sur le bas-côté aussi. Ma quête de perfection fut à ce prix. Même si j'ai eu très tôt conscience qu'elle n'est pas l'ennemie de la médiocrité, mais sa voisine de palier, sa cousine mitoyenne. Le cancre, comme le premier de la classe, sont des composantes essentielles à tout écosystème scolaire. Sans eux, le corps enseignant ne ferait que roupiller, ressassant d'une année sur l'autre les mêmes phonèmes, les mêmes théorèmes, les mêmes poèmes. Non contente de collectionner les bons points, les A, les 20 et les félicitations du jury, je pris très tôt un malin plaisir à ne fréquenter que les pires éléments de ma classe. J'avais compris que la saine émulation n'est qu'une utopie et je préférais enrichir mon vocabulaire en me confrontant à des gens que je savais moins brillants que moi et dont, paradoxalement, j'avais bien davantage à apprendre qu'en me cantonnant à un cercle d'amis parfaites, au pédigré impeccable et au schéma de pensée formaté. Mon père y voyait le fantasme d'une rébellion petite bourgeoise. Il comparait volontiers mon appétit pour les fréquentations de fond de classe à ses propres exploits de jeunesse, lorsqu'il avait tapissé les murs tout en moulures et stylobates de sa chambre d'adolescent à l'aide d'étiquettes de boîtes de petits pois. Oui, de petits pois, ma chérie. C'est dire si j'en ai fait des conneries, moi aussi. Alors vas-y, perds ton temps avec cette jeunesse qui ne croit en rien et dont l'ambition ultime est de profiter du système. De toute façon, on sait tous les deux où ça les mènera dans 5 ou 10 ans, directement dans les files d'attente de la NPE. Alors je ne vais certainement pas m'excuser de vouloir autre chose pour ma fille qu'un fainéant, un type incapable de subvenir aux besoins de sa famille autrement qu'en vivant au crochet de la société à laquelle il prétend ne pas vouloir appartenir. Cette famille qu'il portait à bout de bras était la grande affaire de mon père, sa grande fierté aussi. S'il nourrissait de hautes ambitions pour moi, il ne manquait aucune occasion de clamer sa mâle suprématie et de rappeler ses devoirs à celle qui tenait la maison et lui remplissait l'estomac, ma mère. Cette femme qui incarnait le parfait contre-exemple de ce à quoi il aspirait pour moi. Parce que lui-même l'avait toujours voulu ainsi, parce que ma mère avait été programmée pour être un utérus, un ventre, une paire de mamelles, puis deux bras pour me porter, me consoler, m'étreindre, moi qui serais cette fille parfaite car unique. Cette toute-puissance paternelle eut pour conséquence de faire de moi une enfant surprotégée. Élevée dans un bas de contention, je sentis très tôt à quel point mes gestes se devraient d'être aussi mesurés que je les savais observer. Avocat reconnu, homme respecté et craint par son entourage, mon père me condamna très tôt à l'excellence. Au triumvirat, bac scientifique, cagne, hypocagne. Il me tint éloigné de toute distraction, de toute source de perdition, de tout écran de télévision. C'est à lui que je devais réciter mes devoirs le soir venu, rendre des comptes, ou supplier pour obtenir la moindre trêve, piscine entre copines, goûter d'anniversaire, soirée pyjama, boum. En dépit de mes très bons résultats scolaires, il semblait que la moindre requête du genre n'eût été que la traduction à peine voilée d'un laisser-aller qui, à moins d'être tué dans l'œuf, se ferait bientôt laxiter. Ma mère n'était que la spectatrice muette de cette éducation à la française qui devait me mener au firmament. On lui savait gré de ne pas s'aventurer à donner son avis trop au-delà de son maigre champ de compétences, qui, hors les quatre murs de sa cuisine, montrerait assez rapidement ses limites. On ne l'avait pas épousée pour ses talents pédagogiques, mais pour son organe reproducteur, son approche méthodique du nettoyage des vitres et sa tarte au citron, qu'on s'énorgueillissait pour elle d'être parmi les plus goûteuses que l'on eût jamais mangées. On parlait souvent pour elle. On lui épargnait l'embarras de dîner où elle n'aurait su que s'enferrer dans des lieux communs et où elle se serait de toute façon ennuyée. On l'habillait avec soin pour mieux lui interdire l'accès à tout ce qui aurait pu lui permettre de faire rayonner sa beauté ou son esprit, que l'avait au demeurant beaucoup plus développé que mon père ne voulait bien l'imaginer. À mesure que je grandissais sous l'égide de ce père aux méthodes dignes d'un précepteur autrichien, maman devint un membre invisible et silencieux de la famille. Aguerrie par les armes dont mon éducation me nantissait, je conçus quant à moi une forme de dégoût pour cette muette acceptation d'un sort que je jugeais indigne d'une femme ayant grandi dans les années 60. Je me jurai très tôt qu'une fois débarrassée de la pesante autorité de mon père, je ne laisserais personne décider pour moi ce que je devais penser, faire ou porter. Je ne serais pas cette femme réduite au rôle de figurante qui, à la moitié de sa vie, menaçait à tout moment d'envelopper son corps dans une blouse informe, de raccourcir sa chevelure d'un tiers et de la rehausser de reflets au burn. Je ne laisserai personne faire de moi une bonne femme, une bonne petite ménagère, attendant sagement que son époux daigne rentrer de sa partie de chasse, de tennis ou de jambes en l'air. Non, je ne me languirai pas de la présence d'un homme dont je ne saurais plus très bien si je l'aime, si je l'admire ou si je le crains. À tant vouloir faire de moi un bon petit soldat, mon père m'avait apporté sur un plateau de quoi fuir son autorité et devenir l'exact opposé de ce à quoi il avait condamné ma mère. Je ne le détestais pas. J'ai grandi dans une belle et grande maison bourgeoise. J'ai senti l'étreinte de l'ennui. J'ai étudié, lu et fait 1000 voyages. J'ai contemplé l'absence et le renoncement. J'ai acquiescé chaque fois qu'il m'appelait son bon petit soldat, sa manière à lui de me témoigner son amour paternel. J'ai beaucoup attendu d'autres signes, mais le général S. ne savait que remettre des galons lors de cérémonies emphatiques et froides. Je ne me souviens plus s'il m'a une seule fois prise dans ses bras. Je ne l'ai jamais vu embrasser ma mère ailleurs que sur le front, comme on le fait d'un défunt. Il condamnait toute forme d'épanchement et il me semblait devoir adhérer sans réserve à chacun de ses dogmes, à son cynisme même. Je me convainquis très tôt qu'il n'était aucun désir que ma volonté ne pût dominer. Un soir de janvier, je devais avoir 12 ou 13 ans, mon père apporta du bureau une pile d'agendas offerts par ses clients. Il ne jurait que par l'épais vélin de celui qu'il achetait dès le mois de novembre, toujours le même, ayant horreur du changement, tout autant que de l'imprévu. Je crois ne l'avoir jamais vu utiliser qu'un seul stylo. Le lendemain, je trouvais les agendas en tas dans la remise, prêts à finir au feu ou à la poubelle. Je les subtilisais sans savoir ce que j'allais bien pouvoir en faire. Je n'ai jamais été cette adolescente qui noircit à parts égales de rêves et de frustrations les pages d'un journal intime. Rien ne me donnait l'impression de mériter une telle consigne. Mais ces agendas me firent l'effet d'une brèche qui allait me propulser dans la rigueur de l'âge adulte, là où tout allait avoir du sens, une fonction et un ordre. Reliés et parfois rehaussés dans l'enluminure, ils avaient un tout autre sens que mes cahiers de textes austères dont je devais soumettre la lecture à mon père chaque dimanche soir. Je commençais à les remplir de rendez-vous fictifs, annotations ou mémorandums. Les quatre couleurs de mon stylo me permettaient de dissocier les grands temps forts de la semaine, travail, loisirs, vie familiale et réflexion en tout genre. Le soir venu, je contemplais avec satisfaction la manière dont ma vie s'organisait. J'avais joué sans conviction à la marchande, au docteur ou à la poupée. Je découvrais le seul plaisir qui vaille, jouer à celle que je serai plus tard. À 22 ans, je pénétrerai une dernière fois dans cette demeure en baumant à parts égales l'encaustique dont ma mère oignait le moindre meuble de famille et le vétiver entêtant de mon père. J'annoncerai ma décision d'arrêter Sciences Po parce que j'aurai envie d'autre chose. J'aurai commencé à écrire des piges, à gagner un peu d'argent. On me trouverait du talent, une jolie plume. On me promettrait une belle carrière de journaliste. Dans le pire des cas, je verrais bien où cela me mènerait. Je ne remercierai jamais assez mon père pour la manière dont il m'avait accompagnée, soutenue, conseillée. Mais il fallait maintenant que je me forge d'autres armes. L'heure était venue de faire mes propres choix. Ma mère essuierait un sourire discret et le regretterait aussitôt. Mon père parlerait de sabotage, s'échaufferait et me promettrait que jamais il ne serait question que je revienne dans cette maison pour pleurer de quoi payer mon loyer. Il avait espéré autre chose pour moi. Il serait déçu, oui, très déçu. Il se sentirait trahi. Et tout ça pour ça. Et je ne te retiens pas, tu sais où est la porte. Cet acte de dissension vengea-t-il ma mère, qu'un ilotisme bourgeois avait bafoué au point de la faire renoncer à toute ambition? Cette mère, plus prompte à brûler son torchon par mégarde que son soutien-gorge par rébellion, avait accompagné mon départ d'un timide sourire. Quelques jours plus tard, elle m'avait fait parvenir une enveloppe contenant quelques billets. Ça m'aiderait à payer une partie de mon loyer. Elle n'avait pas pu retirer davantage sans prendre le risque d'attirer l'attention de mon père. Ma mère puisait enfin dans mon émancipation le courage qui lui avait toujours fait défaut. Elle ne s'était tout simplement pas assez aimée pour faire valoir son droit à autre chose. Je ne serai jamais cette femme. Je me promettais de ne jamais regretter d'avoir choisi d'être moi-même. Je me prédisais un bel avenir. Et pour être tout à fait en accord avec ce choix, j'allais renvoyer l'argent à ma mère en la suppliant de le garder pour elle, au cas où. C'était un empêchement de Jérôme Aumont. Lors de la pause musicale, nous avons écouté Riverman de Nick Drake. Cette émission était produite par Frédéric Guyon. Vous pourrez écouter la suite et fin de ce roman dimanche à 18h. Je vous souhaite une bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.